Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, rêveurs, songeurs et cumulonimbeurs. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce 29 avril. Aujourd'hui, on sonirisme, on sent chimère, on sent art, on sent hardi, Laurel et Françoise. On s'en mêle les pinceaux, on s'en melting pot d'époque. On ouvre une, deux, trois, quatre portes du château, mais j'ai appris qu'il y en avait cinq. À l'occasion de la nouvelle saison de quatre expositions intitulées « Rêve d'une nuit d'été » qui réunit quatre artistes, Sabine Moritz, Corentin Grossman, Ella Walker et Gilbert Garcin, à découvrir dès le 1er mai. Et sur eux, aujourd'hui, on s'aligne avec un A privatif. On s'affranchit des lignes nettes, figuratives, de Sabine Moritz, qui fondent jusqu'à l'abstraction. On en invente d'autres avec Corentin Grossman, qui les plie à d'autres désirs. On les brise façon iconoclaste avec Ella Walker, qui joue des motifs médiévaux, gothiques ou renaissance pour recréer de nouvelles lignes du corps féminin. On les hache menu avec Gilbert Garcin, qui joue de la photo surréaliste et convie Momo et Tati au même banquet. Bref, aujourd'hui, on sonirisme, on s'en chimère, on s'en art, on s'en hardit. Laurel et Françoise, on s'en mêle les pinceaux, on s'en melting pot d'époque et on ouvre 4 voire 5 portes du château d'Aubenas avec nos invités Victor Secrétan, directeur du château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas. Bonjour Victor.
Bonjour.
Et merci d'être parmi nous.
Merci pour l'invitation.
Avec nous aussi, vous êtes nombreux autour de cette table, Corentin Grossman, bonjour.
Bonjour.
Qui vient présenter donc ton expo Ligne de désir.
Oui.
Tout un programme. On est également avec Clémence Auger, l'une des commissaires d'exposition de Ella Walker. Bonjour Clémence.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et notre invitée surprise est Clémentine Planche, qui est co-commissaire de l'exposition Gilbert Garcin. Bonjour Clémentine.
Bonjour, merci à tous.
Et avec nous également derrière les manettes, aujourd'hui, donc hier c'était Nico et aujourd'hui on se renouvelle, fréquence 7 est toujours un coup d'avance, c'est Clara, salut Clara.
Salut.
Avec moi également autour de cette table, Marion, salut Marion.
Bonjour à tous.
Et ben justement Marion, tu nous as présenté, tu nous as préparé un petit agenda.
Alors, on commence tout de suite en parlant de démocratie directe à l'espace culturel associatif La Bobine. Ce soir, à 19h, il y aura une conférence intitulée « La démocratie directe ». Un échange conduit par Nelly Darbois, originaire de Jaugeac, et cofondatrice du collectif Démocratie directe 07. Nelly s'est impliquée depuis 2017 dans plusieurs mouvements citoyens souhaitant l'instauration de la démocratie directe à l'échelon local et national. Si ce sujet vous intéresse, vous aurez l'occasion de venir échanger avec elle à La Bobine, ce soir à 19h.
Un clin d'œil pour le sujet du jour et un clin d'œil à l'une des grandes artistes du siècle dernier, puisque c'est pas ce soir, c'est à 14h30. Ah, et bien tant pis pour celles et ceux qui écoutent l'émission à 17h. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 14h30, à l'USAS, on vous propose un joli voyage au Mexique avec Hola Frida, un ciné goûté plein de vie autour de l'enfance de Frida Kahlo. Frida, vous la connaissez, c'est cette petite fille différente, curieuse de tout, débordante d'imagination, qui fait face aux épreuves avec une énergie folle et qui doit sans doute écouter l'onde curieuse, sans doute. Un film pétillant à découvrir, donc en famille, pour plonger dans l'univers coloré et inspirant de l'une des artistes les plus emblématiques, je le disais, du XXe siècle. Donc rendez-vous à l'USAS tout de suite, là, hop hop, on mange et on y va à 14h30 pour une après-midi tendre et créative.
Toujours dans le cinéma, vendredi à 20h30, les courtes escales continuent avec la projection de À voix haute au cinéma Le Foyer à Rosières. Ce film de Solène Desbois suit un groupe de lycéens de La Rochelle qui, face au dérèglement climatique, partent en expédition dans les Alpes pour comprendre et agir. Une aventure pleine de questionnements sur l'avenir et un regard porté par cette jeunesse déterminée à redéfinir notre manière de vivre ensemble. Une autre séance est prévue samedi au cinéma de Tueil à 20h30 aussi.
Par contre, rien n'est prévu du côté de Véras, puisque c'est la première fois qu'aura lieu le festival de théâtre « Donnez-moi un titre » consacré à l'impro, au spectacle d'impro. Voilà, « Donnez-moi un titre », donc spectacle interactif, tournoi de catch impro, impro enfant et ado, création originale, bref, tout un programme. Ça commence vendredi à 20h30 à la salle des fêtes La Combale à Véras, et ça se poursuit tout ce week-end.
En première édition aussi, nous retrouvons le festival Joyeuse Anime Fest, samedi, à la place de la Grand Fond.
Joyeuse Anime Fest ?
Anime Fest.
Ah pardon.
Un week-end entier pour les fans de manga, avec marché japonais, défilé cosplay, concours, tombola, karaoké et bien plus encore. Mais également concours de dessin, spectacle, DJ set et plein d'autres surprises. Ça commence donc samedi à 9h du matin à la salle de la Grand Fond et ça durera tout le week-end.
Non, je voulais pas faire un jeu de mots fumeux, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu.
Oui.
Merci beaucoup pour cet agenda. Eh bien, allez, c'est parti, on entame cette discussion par un petit peu de musique. Oh, je vous ai vu dodeliner de la tête dans la voiture avec Shuggy Otis qui chantait « Oh my head », littéralement « hors de ma tête », qui a été composé début des années 70 en plein pic de dépression. Et pourtant, ça swing, c'est lumineux. Choix de l'un de nos invités, Victor Secrétin, Alors, pourquoi ce choix, Victor ?
Ouais, en effet, c'est un morceau qui groove bien, mais qui est aussi entre quelque chose de mineur et majeur, de quelque chose d'un peu, par moment, un peu triste, peut-être un peu dépressif en effet, et puis quelque chose de plus lumineux. Moi, ce que j'aime bien avec ce morceau, enfin, l'idée, c'était de poser un peu comme ça une ambiance pour ouvrir l'émission, avec quelque chose de doux, de suspendu, qui nous met, je trouve, dans un état comme ça un peu flottant, et qui nous met dans cet état d'attention un peu rêveur. Et je crois que c'est un peu ce qu'on recherche aussi quand on rentre dans une exposition, peut-être quand on en sort. Mmh. Et j'espère que c'est l'expérience que vont pouvoir faire les visiteurs et les visiteuses dans les semaines, les mois qui viennent au château. Et puis, Shuggie Otis, ouais, c'est un morceau de 74 qui est à la fois mythique. C'est pour moi une œuvre d'art totale, puisque c'est un album en fait qu'il a réalisé, je crois, dans sa quasi-intégralité seul. Mmh. Il a écrit, composé, il a joué, il a produit... l'album, ce morceau. Et c'est un morceau qui est un album qui est passé sous les radars à l'époque et auquel on a prêté de l'attention finalement assez récemment. Alors il y a pas mal de musiciens comme Prince, des groupes comme Outkast qui l'ont samplé, qui sont intéressés à Shuggie Otis. Mais il a eu un retour sur le devant de la scène il y a une dizaine d'années. Et l'idée de ce morceau, c'était d'ouvrir comme ça tranquillement et se mettre dans une bonne disposition ensemble. Avant de plonger dans les quatre expositions.
Dans les quatre expositions, donc sous le signe du songe, du rêve. Enfin, c'est un peu... c'est comme ça que c'est annoncé, mais peut-être...
Oui.
On a droit de dire que ce n'est plus ça.
Ça n'est pas que ça. Mm. C'est toujours compliqué de communiquer en fait, sur quatre expositions monographiques, quatre expositions personnelles. Et évidemment, en fait, il y a des fils qui, j'ai envie de dire, traversent peut-être les univers des quatre artistes. Mais évidemment, ce sont des propositions très, très différentes. Très différentes parce que ce sont des artistes de générations différentes, d'origines aussi différentes. Mmh. Et avec des écritures, en fait, qui n'ont rien à voir de prime abord les unes avec les autres.
Et alors, donc, on parle, nous sommes ensemble, donc vous êtes... quatre autour de la table, quatre invités pour parler des quatre nouvelles expositions donc, qui vont avoir lieu à partir du 1er mai jusqu'au 21 septembre au château d'Aubenas. Nouvelle saison, donc, placée, on va dire, sous le thème du rêve, mais pas que rêve, d'une journée, d'une nuit, d'été, que sais-je. Pourquoi, alors, question basique, mais pourquoi ces choix, Victor ?
Pour revenir au rêve, c'est quand même cette idée de... Je crois que l'art et enfin, les artistes nous amènent à regarder le monde autrement et eux-mêmes le transcrivent, en parlent peut-être avec une sensibilité qui leur sont propres à chacun et disent avec des images ou avec un geste ce que d'autres diraient peut-être avec des mots. Et je crois que le rêve, c'est un bon moyen, en tout cas cet état entre peut-être rêve et réalité, d'apprendre à regarder le monde autrement. Et alors, je sais pas si je réponds à la question, je ne sais plus déjà.
Mais en tout cas, c'est ta réponse, merci. Mais ça me permet de rebondir tout de suite, puisque avec nous également Corentin Grossman, qui présente là son exposition Ligne de désir, première exposition en France, c'est ça ? Enfin, monographique ?
Ouais, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle une expo personnelle, un solo show, si on aime bien les anglicismes, mais oui, effectivement, en dehors, en fait, d'une galerie, parce que chez ma galerie Art Concept à Paris, j'ai déjà eu l'occasion de montrer un ensemble d'œuvres complet, mais là, l'invitation de Victor, c'était vraiment, et de Elena, de Lena Sorokina, Victor Secrétan, Lena Sorokina, c'était de me donner cette opportunité de montrer mon travail ailleurs qu'en galerie, et on touche d'autres publics, c'est ça qui est intéressant, et puis... Dans le cas de cette exposition, ce qu'il y avait vraiment de passionnant, c'est qu'on a réuni un ensemble d'œuvres qui a été constitué sur une période de 8 ans. Mmh. Et quelque part, ça m'amène à prendre un peu de distance sur mon travail, même si je le fais toujours. Le fait d'avoir la présence physique des œuvres sous mes yeux et de pouvoir jouer des dialogues entre des œuvres qui ont 8 ans et une œuvre qui a quelques jours, en fait, puisque j'en ai produit spécialement pour cette exposition, c'est une expérience très intéressante. Du point de vue des artistes et j'espère aussi de ceux qui vont découvrir l'exposition.
Ça t'a permis toi-même d'avoir une autre vision sur tes propres œuvres.
Oui.
C'est intriguant.
Ouais. Mais J'apprends toujours de mes pièces. C'est étrange de parler comme ça puisque je les ai conçues, mais déjà au moment où je les conçois, je suis dans une certaine mesure spectateur parce que j'utilise beaucoup le hasard, je provoque les accidents. Et déjà les pièces en elles-mêmes ont au niveau du sens quelque chose d'un peu glissant ou d'instable parce que je cherche beaucoup à déstabiliser. Mais alors quand on les rapproche, et quand on les rapproche de manière inédite, de manière non calculée, parce que voilà, à la limite ces rapprochements je les fais dans mon atelier, en permanence, je m'auto, c'est un vilain mot, je m'auto-curate, je fais un peu mon propre commissaire, je fais moi-même des expériences entre plusieurs pièces et voir comment ça réagit. Mais là, j'ai pu faire ça, voilà, avec des pièces que j'avais plus sous la main, parce qu'elles sont parties, soit elles sont dans des collections, soit elles sont encore en stock à la galerie, ou des choses comme ça.
Pour que les auditrices, les auditeurs puissent entrer dans ton univers, comment est-ce que, par exemple, est-ce que tu pourrais choisir une œuvre qui te tient vraiment à cœur, que tu essaierais de décrire pour que les auditrices, auditeurs puissent s'imaginer un peu, l'une d'entre elles?
C'est pas un choix évident, je vais en choisir une parce que c'est l'exercice. Je vais choisir une œuvre, un dessin, un grand dessin en noir et blanc qui s'appelle WOS. Et qui est en fait une abréviation, mais je joue un peu parce que c'est une abréviation que j'ai inventée, enfin je crois, peut-être qu'elle existe, mais c'est Wall of Shame. Là j'ai utilisé l'anglais parce que, en fait mon travail a tellement à voir avec la globalisation que l'anglais s'impose souvent, mais j'ai aussi beaucoup de titres en français, enfin voilà, petite parenthèse. Ouais, il y a autant de français que d'anglais en fait. Mais ouais, c'est Wall of Shame et ce qu'il y a de particulier...
Mur de la honte.
Ouais, mur de la honte.
Pour ceux qui ne sont pas anglophones. Mm-hmm.
Et ce qui caractérise cette pièce, en fait, c'est qu'il y a plusieurs comportements dans le dessin. C'est un peu un dessin hybride de transition. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est très improvisée, où j'utilise l'intuition. J'ai pas mal de techniques, entre guillemets. Alors, c'est paradoxal de parler de technique quand on parle d'intuition, mais moi, j'ai trouvé des routines, un peu, qui m'aident à provoquer le hasard. Parce que le hasard, quelque part, c'est étrange, mais ça s'orchestre ou ça se provoque, ou en tout cas, ça s'invite. Il y a des manières de le recevoir. Et ça, c'est plein de manières. Un peu, c'est des mises en condition mentale. Hein. C'est un peu proche de la méditation. Ça peut être un peu proche d'essayer de se perturber par la transe. J'utilise pas de substance quand je travaille, mais dans l'art, c'est quelque chose aussi qui pourrait fonctionner. Donc ce dessin, juste, il a cette partie d'improvisation vraiment qui caractérise mon travail en premier lieu, je crois, dans le processus. Et en même temps, il est très structuré parce qu'il y avait une idée qui gouvernait le dessin dès l'origine. Donc souvent je pars sans idée du tout, préconçue, j'attends qu'elle vienne à moi, puis au fur et à mesure je construis, mais j'évite de trop rationaliser parce que j'utilise l'intuition. Mais dans ce dessin, donc, il est traversé par un très grand mur, une muraille on peut dire. Et du coup, on a un espace déjà qui est scindé en deux. Et le mur, comme il fait plus ou moins face à celui qui regarde, il fait écran. Donc il y a un jeu de montrer caché. Et ça, c'est quelque chose, déjà un espace qui me stimulait beaucoup. Voilà, mais après, en parler, ça pourrait prendre une demi-heure, alors que le dessin, c'est fluide, on reçoit tout ça. Il y a de l'humour, il y a beaucoup d'absurdes. Il y a des choses très illusionnistes. Donc on rentre dans le monde, dans les textures, dans les sensations. Et puis, on n'est pas obligé d'intellectualiser tout ça, en fait. Je pense,
de dire.
C'est ça que je veux dire. Mais ici, je parle avec des mots, donc je fais un effort pour essayer de transmettre quelque chose. Mais c'est très difficile.
Mais c'est vrai que c'est très ludique aussi. C'est très ludique que tes œuvres qui sont inspirées par... c'est écrit, mais c'est vrai, beaucoup par Bruegel, par Jérôme Bosch aussi, il y a comme une inversion aussi, comme un grand carnaval en fait, une inversion des valeurs, des proportions.
Exactement, ouais.
C'est très stimulant.
Merci beaucoup.
Et lignes de désir, quelles sont-elles ? Alors, tu as intitulé, enfin je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Victor, mais cette exposition s'appelle Lignes de désir, quelles sont-elles ?
C'est une expression qui est venue au fil de nos discussions lors du premier repérage avec Victor. Et c'est une expression, comme l'a rappelé Clémentine d'ailleurs, qui vient de l'urbanisme, si je me souviens bien, qui provient de l'urbanisme et qui sonne très poétiquement, ligne de désir, mais en fait qui désigne quelque chose de très concret. C'est les petits chemins qui se forment, qui sont dessinés par les pas des gens.
Spontanément.
Spontanément, exactement, merci. Par exemple, dans l'espace urbain, et dans le cas de... si ça se produit dans l'espace urbain, ça indique qu'il y a des chemins de traverse, qu'il y a d'autres possibilités, des raccourcis, Et donc, les voies officielles ne sont pas forcément pleinement efficaces, vu qu'il y a la nécessité d'en emprunter d'autres. Donc, ça fait sens quelque part par rapport à mon travail, parce que je cherche peut-être les chemins de traverse, à retourner des choses, à des inversions, comme vous venez de ce dont vous venez de parler, en fait. Donc déjà, il y a cet aspect. Puis il y a le désir, dans mon travail, ça joue beaucoup, que ce soit le désir sexuel, mais comme une énergie vitale, en fait, qui traverse un peu tout le travail.
Une énergie vitale, mais aussi peut-être une énergie destructrice. C'est, je crois, quelque chose qui traverse l'œuf de Corentin. On avait un peu parlé, Eros et Thanatos, c'est... Tu parles du monde, tu parles aussi de prédation dans tes œuvres, c'est assez présent. Tu parlais de Wall of Shame, enfin le mur de la honte, c'est des murs qu'on retrouve partout dans le monde, c'est toujours très d'actualité.
Ouais, ouais.
Et c'est le désir parfois, le désir évidemment comme moteur, moteur positif, mais pas toujours non plus.
Oui, puisque tu disais, Corentin, que la globalisation, en fait, j'ai parlé de Bruegel, de Jérôme Bosch, etc., mais c'est très contemporain. En tout cas, les thèmes qui émergent, qui arrivent, en fait, c'est comme une collusion type plaque tectonique.
Enfin, ouais, c'est ça,
des plaques, pouf,
télescopage,
et de là,
explosion.
Voilà, émerge un présent, bien présent, qui est celui de la globalisation, notamment.
Ouais.
Et donc, quand tu parles de mort, de désir de mort, quand on est dans la globalisation et certaines formes de capitalisme, enfin, je veux pas...
Non, mais ça fait partie du travail. Après, moi, je me place en tant qu'artiste. Alors oui, il y a des convictions derrière, mais pas sur le terrain du militantisme directement.
Oui,
je peux
pas
être
un
militant
politique,
dans d'autres sphères de ma vie, mais qui sont personnelles, mais en tant qu'artiste, voilà.
Pour, on va filer cette métaphore, enfin, c'est pas une métaphore, mais du désir, pour parler de l'exposition d'Ella Walker, puisqu'on est non pas avec Ella Walker, mais avec Clémence Auger, l'une des commissaires de l'exposition. Bonjour.
Oui, merci beaucoup. Oui.
Alors, le désir, c'est aussi une nouvelle forme de désir, ou en tout cas une nouvelle forme de ligne. Je parlais de nouvelle forme de ligne du corps féminin présent chez Ella Walker. C'est un petit peu ce qui émerge aussi de cette exposition, de cet artiste.
Oui, en effet, le travail d'Ella Walker, c'est avant tout replacer la figure féminine au cœur de cette narration qu'elle vient développer dans ses œuvres, et une figure féminine qui, au fil de l'histoire de l'art, de l'histoire des religions, a souvent été classée dans des représentations très binaires, qu'elle soit chaste ou alors à l'opposé de pécheresse. Et en fait, Ella Walker, elle se sépare un petit peu de ces représentations très binaires, et elle vient comme ça, à travers des strates successives d'influence, d'histoire, de matérialité aussi, recréer ce théâtre dans lequel la figure féminine reprend toute sa place et reprend son autorité, en tout cas sur l'œuvre et son regard, en fait, se réapproprie aussi son propre regard. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le travail d'Ella Walker.
C'est une jeune artiste. Juste un mot sur...
Oui,
sur
elle est, donc elle est née à Manchester, elle a 33 ans. Et donc elle vit et travaille à Londres en ce moment, et donc oui, c'est la Benjamine de l'exposition, même si si je dis pas de bêtises, et pourtant son travail fait preuve d'une grande maturité, et on sent qu'elle a déjà beaucoup de recul sur l'histoire et sur ses œuvres, donc c'est une exposition formidable.
Ouais. Et alors pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi? Alors je ne sais pas si c'est toi, Victor, si c'est toi, Clémence. Enfin, pourquoi vous avez voulu porter à notre regard les œuvres d'Ella Walker?
Les œuvres d'Ella Walker, mais en fait les œuvres de tous les artistes qui sont présents pour cette saison, ce sont des artistes en fait qui produisent des images. De Gilbert Garcin à Corentin, en passant par Ella ou Sabineux. Et c'est des artistes qui vivent dans un monde entouré d'images, comme nous tous d'ailleurs. Et en effet, qui quelque part, je crois, questionnent la place du visible, la place de l'image, et la question aussi de l'attention. Alors chez Ella Walker, ça, en effet, c'est autour de la question, par exemple, du regard féminin, en effet, comment voilà, le féminin se reprend en autonomie dans sa propre présentation. Chez Corentin, on en a parlé, sont peut-être d'autres enjeux. Chez Sabineux, ce sont des enjeux qui sont plus liés à l'histoire même peut-être de la peinture. Mmh. Chez Garcin, on s'est vraiment rendu compte avec Clémentine dans nos recherches que c'est quelqu'un qui fait des images, notamment à partir d'images. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont formellement quatre approches qui n'ont de prime abord rien à voir, mais qui toutes, je trouve, ouvrent des pistes nouvelles pour lire le monde et pour l'art contemporain. Et donc, même s'ils sont comme ça de générations très différentes, ce qui fait quand même la singularité et la force de chacun de ces artistes, c'est d'arriver en permanence à trouver cette articulation entre le fond et la forme, entre le sublime et le concept, et à nous entraîner quand même par la puissance des images qu'ils produisent. Et à ce compte-là, je pense qu'Ella Walker, là où elle est fantastique, c'est qu'elle va aussi bien puiser dans l'iconographie des pin-up des années 50 que dans l'art roman. Mmh. Au même titre que chez Corentin, ce télescope... tout un imaginaire, Rasta, avec derrière, il va convoquer une toile de Manet. Enfin, on est comme ça dans des collusions permanentes, et chez tous ces artistes, c'est le cas d'ailleurs.
Et oui, ouais. C'est peut-être moins évident chez Sabine Moritz.
Oui et non, en fait, justement, c'est aussi tout le propos de l'exposition, c'est ce qu'on a vraiment cherché à montrer, à révéler, c'est que chez Sabine Moritz, finalement, la question de la figuration, de l'abstraction, on se rend bien compte qu'elle est plus pertinente, en fait, elle a même plus sens. Mmh. Sabine Moritz, elle démarre à travers au début des années 90, ses dessins et ses premières peintures sont de prime abord comme ça très figuratives, très figuratifs. Il y a déjà une attention très forte aux gestes et à la couleur. Et là, dans ces dernières toiles qui sont présentées qui sortent de l'atelier pour certaines d'entre elles, la figure apparaît au milieu de la matière, au milieu de toiles abstraites. Mmh. On se rend compte dès les années début des années 2000, 2010 que dans ces vanités, dans ces natures mortes, donc avec des motifs, des toiles de prime abord comme ça qu'on pourrait qualifier de figuratives, le fond déjà happe comme ça le motif, ou le motif émerge d'un fond qui déjà est abstrait. Et finalement, elle s'affranchit comme ça des conventions et elle propose une nouvelle expérience de l'image. Pousser toujours la création de l'image ailleurs.
Je ne sais pas comment vous avez créé la scénographie pour Sabine Moritz. Il m'est apparu dans le choix des œuvres, en tout cas que vous avez mis à disposition des journalistes. Il y en a deux qui... je me suis dit, c'est quand même assez drôle. Il y a une œuvre de 92 qui s'appelle Bedroom, où on voit des lignes... c'est très géométrique, c'est très figuratif. Et puis, de ce Bedroom surgit en 2023, donc maintenant... un tableau qui s'appelle Dreamers. Donc là, on était dans la chambre et ensuite on est avec ses rêveurs. Et là, toutes les lignes ont fondu, quoi. On trouve. Alors je ne sais pas comment vous jouez avec ça, de la chambre au rêveur. Je ne sais pas comment vous mettez. Enfin, est-ce que vous mettez en scène ça ou pas ?
Voilà, tout le monde pourra le découvrir après-demain. Mais ce sont des jeux à la fois formels et conceptuels. Et comme disait Corentin, il ne faut pas non plus tout intellectualiser. Oui. Il y a vraiment, je crois, là, une expérience de l'œuvre à faire. C'est l'exposition a lieu dans la salle du Pesage, qui est une salle que vous connaissez, qui est assez monumentale, avec en effet une scénographie qui a été pensé, imaginé spécifiquement pour cette exposition. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Ouais, on est happé, je pense, par les œuvres. Et là, j'ai envie que le public... réserver la surprise au public. Je voudrais quand même juste rajouter une chose. Corentin a produit pour l'exposition, il en a parlé, et là également. Et que ce soit Ella, Sabine ou Corentin, ce sont trois expositions personnelles. Les premières expositions personnelles pour ces artistes dans une institution en France. Corentin et Sabine ont eu des expositions dans de grandes galeries, notamment à Paris. Et là, c'est vraiment sa toute première exposition en France. Et ça, c'est important. Et pour ces trois expositions, les artistes ont produit. Et ça, c'est aussi le rôle d'un centre d'art. C'est accompagner aussi les artistes dans la production de nouvelles œuvres, contribuer à leur diffusion, à les faire connaître. Et donc, on est, je crois, très fiers d'avoir pu mener en peu de temps, en plus, ces projets. Chez Garcin, les enjeux sont différents puisqu'il s'agit d'une exposition rétrospective. Mmh. Où on présente une quarantaine d'œuvres sur les 300, 400 que Garcin a pu produire au cours de sa brève mais fulgurante carrière.
Oui, Clémentine, un mot justement sur cette exposition Gilbert Garcin, effectivement, qui a commencé à produire à sa retraite.
Oui, ben, je vous invite vraiment à aller la découvrir parce que comme toutes les autres, voilà, c'est rentrer dans un univers, rentrer dans l'univers de ce jeune, enfin de ce retraité qui a décidé d'être jeune artiste et qui nous fait comme ça rentrer dans cet univers où il y a Mister G, son double fictif qui est mis en scène avec parfois sa compagne Monique Garcin.
On est dans de la photographie.
On est dans la photographie, oui, pardon, dans de la photographie, mais qui est en même temps mise en scène par des jeux de montage qu'il photographie ensuite. Donc, d'où ce que disait Victor, l'image dans l'image, c'est que ce n'est pas des images du réel, c'est des images qu'il a construites avant de les photographier. Et donc, ça lui permet de créer toutes ces lignes, toutes ces structures où il met en scène ce Mister G dans des scènes qui sont des fois très absurdes, ou en tout cas dans un paysage où tout peut se jouer, des fois des situations très cocasses, qui sont très drôles, des fois tragiques, mais toujours avec une note d'optimisme ou de cynisme qui rend la chose au final très belle et qui parle, enfin, en parlant de ce Mister G, ça parle de nous. Mmh. Et du coup, depuis le petit univers de Mister G, on parle du grand univers, donc... Je vous invite à aller la voir aussi.
Cette exposition, elle s'appelle La vie devant soi, très joli titre emprunté évidemment à j'allais dire Romain Gary, Émile Ajar en l'occurrence. Pourquoi ce titre ?
C'est un des titres d'une de ses œuvres, parce que c'est très très important le titre chez Gilbert Garcin. C'est chaque photographie est reliée à un titre, mais qui n'impose pas une interprétation, c'est important pour lui, mais qui ouvre une porte. Et dans une de ses photographies, justement, il a appelé ça La vie devant soi. Et pour nous, c'était vraiment en écho à la vie de ce retraité qui a décidé d'être artiste et qui, au final, a encore toute la vie devant lui. Et en 20 ans, va réussir à devenir quelqu'un dans l'art qui est important et qui est reconnu. Donc, ça prouve qu'on a une vie devant soi à n'importe quel âge.
Victor, tu voulais ajouter ?
Alors, je vais plus parler de Garcin, mais de la surprise, je ne sais pas combien de temps il nous reste.
Oui, mais on est hors temps déjà, là. D'accord. Mais ça, c'est du bonus, voilà. C'est ce qu'il y a de meilleur. En fait.
Mais très rapidement, parce qu'on les adore, on présente une œuvre d'Ilmer Froy qui était déjà en fait présentée dans l'exposition précédente, qui a été revisitée par les artistes.
Ilmer Froy, en trois mots.
Ilmer Froy, c'est
pour
un duo.
Pour ça, parce qu'on pourrait dire, tiens, un être venu, enfin voilà, un Suédois, Ilmer, je m'appelle Ilmer, mais non.
Ilmer Froy sont deux artistes, un duo, Boris Geoffroy et Hugo Lemaire, et ils sont venus en Ardèche travailler dès 2023-2024, notamment dans la vallée en 2024 dans la vallée de Saint-Mélanie. On a mis en place, développé un partenariat avec l'association Sur le Sentier des Lots qui ont accueilli Ilmer Froy en résidence plusieurs semaines. Et l'œuvre présentée au château, une œuvre assez monumentale, reste cet été, a été, comme je vous le disais, revisitée, réagencée par les artistes et accueillera d'ailleurs les visiteurs. Et c'est une œuvre qui pour moi est importante parce que c'est un peu un fil qu'on tire quand même depuis le début, depuis l'ouverture du château. C'est une peinture sans pinceau, sans chevalet, où les couleurs sont en fait extraites de la terre ardéchoise, j'ai envie de dire, les motifs révélés par la matière en fait elle-même. Et c'est un art du vivant qui est fait d'écoute, de soins et d'attention au cycle du monde. Ça convoque à la fois, ça fait un peu le trait d'union de la première exposition inaugurale l'année dernière, Habiter le monde, et les expositions actuelles où il y a, encore une fois, des enjeux artistiques de qu'est-ce que c'est que peindre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est produire des images à l'heure actuelle. Et ces pratiques sont résolument ancrées dans notre époque, dans notre temps, dans nos préoccupations. Et les artistes les mettent en matière, en images, avec leurs propres moyens.
On est donc hors temps, mais j'aimerais quand même, parce qu'on est peut-être passé un peu rapidement sur l'exposition d'Ella Walker. Clémence, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette expo pour nous donner envie
Pour vous donner envie, j'aimerais vous parler un petit peu de la matérialité aussi des œuvres d'Ella Walker, qui vient en fait assembler de la poudre de marbre, des pigments, et créer une surface poreuse qui nous rappelle peut-être les fresques de la Renaissance italienne. Oui. Qu'on a peut-être vu dans des églises romanes ou italiennes en France et donc qui crée comme ça quelque chose d'assez saisissant à l'œil et une surface mate poreuse et qui est vraiment incroyable, donc avec plaisir. Et donc l'exposition aura lieu dans les salons 18e du château avec une très belle lumière naturelle qui vient souligner ses œuvres. Merci.
Merci Clémence. Corentin, un dernier mot. Est-ce que tu connaissais les œuvres avec lesquelles tu vas cohabiter ?
Certaines, enfin, je les avais vues passer, mais je les avais pas aussi bien identifiées, forcément. Enfin, maintenant, j'ai l'occasion, ouais.
Et est-ce que ça, est-ce que l'exposition, la tienne en l'occurrence, s'est montée en prenant connaissance des autres expositions ou pas du tout?
Pour des raisons d'organisation, on est sur des timings assez serrés et on se succède avec plein de problèmes de montage, de problèmes techniques, etc. Et puis on se concentre. Enfin, moi personnellement, je me suis concentré sur mon travail pendant le montage et je me réserve justement à partir de maintenant, je suis disponible pour apprécier et découvrir le travail des autres. Mais c'est vrai que voilà.
Et l'œuvre que tu as créée pour l'occasion, elle s'appelle comment ?
En fait, il n'y en a pas qu'une. Il y en avait 8. Je crois qu'on en a enlevé une parce qu'on avait plus d'œuvres que nécessaire. C'était un peu une marge. Mais y a cette œuvre, donc je suis un peu perdu. Il y a deux grands formats et des formats plus modestes. Du coup, je ne sais pas de quoi parler en priorité. Mais...
On invite ouais. les gens à venir découvrir... ces œuvres. Donc, l'exposition ouvre jeudi, le 1er mai. Elle aura lieu pendant tout l'été, avec un week-end d'inauguration à rappeler. L'occasion, donc, jeudi à 11h, avec toi, Clémence, je pense, et peut-être Victor aussi, découvrir l'exposition de Ella Walker. Ça, c'est à 11h. À 15h, Corentin, tu présenteras justement l'exposition jeudi. Non,
avec
pas tout
Victor,
à fait. Avec
en tout
Victor.
Cas. Certainement ouais. pas seul, deux. Mais avec Victor, si.
Elena. Elena Sorokina, la co-commissaire de l'exposition.
Et vendredi, ce sera au tour des expositions Sabine Moritz et Gilbert Garcin d'être présentés donc, à 11h et à 15h. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos sur le site du Château d'Aubenas, Centre d'art contemporain et du patrimoine. C'est bien ça.
Exact.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir fait le long chemin jusque chez nous, les locaux de Fréquence 7. Merci beaucoup à toi, Clara. C'était top.
Oui.
À la régie. Et merci Marion beaucoup pour la préparation de cette émission et pour l'agenda. Restez à l'écoute de Fréquence 7 puisque à 13h, vous retrouvez Drôle de Dame. À 15h, le Telex. À 16h, Sur la route. À 17h, L'onde curieuse. À 18h, c'est Polymix et la voix off. Et à 21h, la crème de la crème, Metal Zone. Ciao.